8 mai 1981.
François Mitterrand est élu président de la République.
Pour la première fois depuis la naissance de la Ve République, 23 ans plus tôt, un homme de gauche est élu à l'Élysée. Une soirée historique avec ses scènes de liesse et ses larmes de joie chez les militants. Deux septennats plus tard, François Mitterrand fait ses adieux rue de Solferino et passe le relais.
Nous sommes redevenus, vous êtes redevenus, une force politique et sociale capable d'entraîner la France chaque fois qu'elle en sentira la nécessité pour la mise en place d'une certaine idée de la société qui nous est chère. Merci.
Sauf que depuis, les électeurs sont de moins en moins nombreux à voter PS. En 2017, Benoît Hamon a terminé à la 5e place avec 6,36% des voix. Pour beaucoup d'électeurs, la gauche de gouvernement n'incarne plus la défense des travailleurs. À chaque réforme, initiée sous François Hollande, comme la loi El Khomri, les syndicats ont crié à la trahison.
Qu'on soit dans l'industrie automobile, qu'on travaille à Auchan, qu'on travaille à... Peu importe, la loi El Khomri va toucher toutes les branches.
Sur fond de chômage de masse et de désindustrialisation, des bastions ouvriers se tournent vers le Rassemblement national. Depuis son fief d'Hénin-Beaumont dans le Nord, Marine Le Pen enfonce le clou.
C'est dans ce canton que la gauche a trahi. C'est à Courcelles-lès-Lens et Noyelles-Godault qu'a eu lieu le drame industriel et social de Metal Europe, sacrifié sur l'autel de la finance.
Alors, mondialisation financière, emploi, questions identitaires et sécuritaires, comment expliquer un tel basculement des électeurs vers la droite? 40 ans après l'élection de François Mitterrand, la gauche garde-t-elle encore des raisons d'espérer?
Les spectateurs que je vous transmets à tous les deux, comment expliquer que les classes populaires en France donc votent désormais pour l'extrême droite? Frédéric Savicky, c'est dit de manière un peu lapidaire, mais c'est vrai que le Rassemblement national a fait une percée chez les plus modestes et aussi chez les moins diplômés. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Est-ce que c'est vrai déjà et comment est-ce qu'on l'explique?
Voilà. Alors Anne Buxel pourra compléter, mais c'est pas aussi vrai que ça. C'est-à-dire que le vote majoritaire aujourd'hui dans la classe populaire, c'est plutôt l'abstention, ouais. Même si au moment de l'élection présidentielle, ça vote un petit peu plus. Mais enfin, c'est quand même un signe de défiance quand même très forte pour le système politique. Ensuite, le vote pour le Rassemblement national. Alors là, il faudrait détailler en termes de tranches de génération. Il faudrait détailler aussi en termes de niveau de qualification. Toutes les classes populaires ne sont quand même pas aujourd'hui rassemblés derrière le Rassemblement national, mais néanmoins, évidemment, il séduit plus que les partis de gauche ou issus de la gauche, pour des raisons qui tiennent très probablement à des déceptions, évidemment, par rapport à ce qu'a fait la gauche quand elle a été au pouvoir. Alors là, il faudrait évidemment détailler.
On va le faire.
Exactement. Donc, pour beaucoup d'électeurs, en particulier les plus jeunes aujourd'hui, la gauche, c'est plus forcément celle de 1980 et des grandes réalisations sociales.
Et le Rassemblement national s'est dédiabolisé par rapport au parti du père.
Dédiabolisé sans doute dans une stratégie parce que le programme n'a pas véritablement changé, mais il apparaît en tout cas comme celui qui est le seul à ne pas avoir exercé le pouvoir, c'est très important, et dont le style, effectivement, parle.
Alors, le chiffre du jour, Vincent.
Ben oui, 24%, un quart des Français seulement se situent eux-mêmes à gauche aujourd'hui, selon une étude de la Fondapol publiée le 4 mai. 38% des Français se situent à droite et 38% des Français ne se classent ni à gauche ni à droite. Anne Muxel, comment expliquer ce chiffre qui est beaucoup moins important qu'il y a 40 ans? Est-ce qu'on peut dire que l'épicentre de la politique française s'est droitisé et maintenant à droite ou au centre droit?
Oui, alors évidemment, au vu de ces chiffres, on voit bien que quelque chose s'est passé, se déplace effectivement sur la droite, mais il faut bien prendre aussi la mesure de l'importance maintenant des Français qui ne se reconnaissent plus dans le clivage gauche-droite. Et ce qui a aussi beaucoup progressé, c'est ces positions indéfinies, centrales, ni gauche ni droite,
ni gauche et droite. Plus d'un sur trois, oui.
Voilà, mais qui effectivement ont progressé. Bon, il n'en reste pas moins que la gauche s'est effritée et qu'effectivement ça profite à la droite, on va dire à la droite classique, à laquelle on rajouterait effectivement le Rassemblement national. Mais sachant aussi que quand on observe un petit peu des évolutions, notamment de ce clivage idéologique, c'est à une tripartition quand même de l'espace politique que l'on est toujours confronté. La gauche, la droite et le Rassemblement national à l'extrême droite.
Alors, on va regarder un graphique des premiers tours depuis 81.
Depuis 81, donc, qui regroupe le chiffre que l'on voit sur le graphique, montre l'ensemble des gauches, c'est-à-dire le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste, et les petits partis d'extrême gauche. Donc, on voit qu'en 81, on est à 46%, et en 2022, on prévoit 26%. Frédéric Savicky, est-ce que ça veut dire qu'il est fort probable que l'année prochaine, il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle, comme ce fut le cas en 2002 et en 2017?
Bon, alors là, on compare des données électorales à des potentialité quand même très éloignée encore. 2022, c'est encore loin. La campagne n'a pas encore commencé. Mais il y a effectivement quelque chose qui plaide plutôt dans cette hypothèse, c'est le morcellement des candidatures. Donc, évidemment, quand potentiellement on a 25% d'électorat, peut-être un peu plus, il est clair que s'il y a 3, 4, 5, si on ajoute la candidature du Parti communiste ou de candidat d'extrême gauche, il est clair qu'il y a peu de chances de se qualifier au premier tour. Donc est-ce que d'ici là, une logique de rassemblement peut se dessiner, y compris sous la pression des électeurs? Il y a quand même beaucoup d'électeurs, j'allais dire de gauche, très sympathisants, qui ont pas envie de ce morcellement et qui ont envie quand même de jouer le jeu. Donc on voit bien que avec 20%, un candidat ou une candidate de gauche à la suite du premier tour pourrait parfaitement casser le jeu, parce que il n'est pas du tout évident que Emmanuel Macron parvienne à réitérer sa performance de la fois dernière, de 2017. Donc le jeu dépend beaucoup, enfin les projections dépendent beaucoup de l'offre électorale, mais il est clair que tant que la gauche est divisée, beaucoup, y compris des électeurs qui pourraient voter pour elle, se disent que de toute façon ça ne sert à rien, puisque c'est perdu d'avance. C'est foutu d'avance. Et donc effectivement, c'est ce qui profite aussi à une partie de l'électorat de Marine Le Pen, c'est qu'elle peut apparaître finalement comme celle qui est la seule en mesure de pouvoir faire chuter Emmanuel Macron.
Alors une des clés d'explication, Anne Muxel, sur cette baisse de l'influence de la gauche, c'est les thèmes qui se sont imposés dans le débat public, qu'on appelle régalien, la sécurité, les questions de terrorisme islamiste, les questions d'immigration. Est-ce que c'est une des explications de la progression de la droite et du fait que la gauche a moins d'influence et d'hégémonie qu'autrefois?
C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des thèmes qui aujourd'hui occupent les clivages dans l'espace public, qui clivent aussi les populations et qui, du coup, sont des thèmes pour lesquels les forces politiques elles-mêmes ne sont pas forcément d'accord. Ce sont des thèmes qui clivent la gauche, qui clivent aussi la droite et qui clivent aussi la Macronie. Donc on voit bien qu'à part effectivement le Rassemblement national qui est ferme et assez constante sur ses positions, à la fois sécuritaire, identitaire, à l'égard de l'immigration, et toutes les autres forces politiques sont traversées par des contradictions, des ambivalences, des désaccords qui nuisent à la lisibilité, en tout cas pour les Français, des positions claires des uns et des autres par rapport à ces enjeux sécuritaires et identitaires. Et donc ça n'aide pas, d'abord le repérage politique des Français, ça ne leur donne pas forcément envie de voter. La tentation de l'abstention est quand même toujours très importante. Je rappelle qu'en 2017, alors qu'on était quand même dans un contexte de renouvellement important de l'offre politique, le chiffre de l'abstention était assez important.